Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur.
On continue bien évidemment à vous accompagner en cette matinée pour vous aider à gérer au mieux vos placements, vos investissements, votre patrimoine. C'est la mission de Cœur de patrimoine, vous en avez désormais l'habitude. Et on va s'intéresser à une façon d'investir dans le monde immobilier en accueillant Sophie Richard. Bonjour Sophie.
Bonjour, cœur de patrimoine, pardon.
Merci de nous accorder ces quelques minutes depuis le siège de Viagimo, donc depuis la Vendée. Et on va parler ensemble de viager. Alors, c'est un terme que beaucoup de Français ont dans la tête, malgré la démocratisation depuis quelques années, sans avoir forcément l'idée exacte de ce que c'est. Est-ce qu'on peut revenir précisément et pédagogiquement, Sophie, sur ce qu'est le viager ?
Oui, bien sûr, c'est vrai que tout le monde a déjà entendu parler du viager. On pense le connaître, mais finalement, la réalité est très souvent tout autre. Parce qu'il peut y avoir des idées reçues, des tabous, donc on ne se sent pas concerné et du coup, on ne va pas s'inspirer de cette vente qui va apporter des solutions tant pour le vendeur que pour l'acquéreur. Donc, le viager, c'est avant tout une vente immobilière qui va réunir un vendeur qu'on appelle crédit rentier et un acquéreur qu'on appellera un débit rentier. C'est une transaction qui va reposer sur un bien immobilier. La grande différence avec l'achat traditionnel, c'est qu'il y aura des particularités quant aux conditions et au prix. Donc, c'est une vente qui se déroulera en acte authentique chez le notaire. Mmh. Et le paiement ne sera pas à payer tout de suite, mais de manière échelonnée dans le temps. Et on va distinguer deux types de viagers. Le viager occupé, qui est le plus répandu, le plus reconnu, qui représente à peu près 80% des transactions. Là, le vendeur fait le choix de rester vivre dans son logement où il a tous ses repères pour obtenir. Il va vendre en viager occupé pour obtenir des aides à domicile, pour adapter un logement en situation de dépendance, par exemple. Et puis, l'acquéreur va faire le choix d'investir dans ce patrimoine immobilier parce que l'immobilier, ça a du sens pour lui, ça reste une valeur tangible et refuge. Mais il va le faire sans recours à l'emprunt, de manière échelonnée dans le temps. Et finalement, c'est le vendeur qui jouera le rôle de banquier, comme un crédit vendeur. Eh oui. Et on a le viager libre. Le viager libre prend de plus en plus d'essor. Beaucoup pensent qu'il est impossible d'acheter en viager libre de tout occupant, mais si, c'est possible. C'est ce qu'on appelle le viager libre. Donc, le vendeur quittera son logement pour le plus grand bonheur d'un acquéreur qui pourra devenir enfin propriétaire et occuper ce logement-là.
Et pourtant, avec une décote, entre guillemets.
Alors, la décote, on va l'appliquer sur la partie viager occupé, puisque le fait d'occuper le logement pour le vendeur, il y aura une décote d'occupation, ce qu'on appelle le droit d'usage et d'habitation. Ça veut dire qu'on va acheter un bien moins cher, très souvent décoté à hauteur de 50% de sa valeur vénale, sa valeur D'accord. libre.
Alors, ce matin, on a décidé de s'interroger plus sur ce viager libre, cette deuxième option que vous nous présentiez à l'instant, Sophie Richard. Pourquoi avoir voulu mettre en avant ce viager libre ?
Alors, parce que justement, le viager libre va apporter beaucoup de réponses apaisées dans cette conjoncture assez malmenée, que ce soit l'inflation qui concerne tant le vendeur que l'acquéreur, que ce soit le durcissement de l'octroi à l'emprunt. Et on voit beaucoup d'acquéreurs qui se voient refuser l'emprunt, soit parce que les taux sont trop élevés. Et il y a encore 3 ans, on leur permettait d'acheter un T4. Or, aujourd'hui, ça sera un T2. Donc, leurs besoins sont tout autres. Ou alors, on voit que le HCSF, le Haut Conseil de Stabilité Financière, durcit l'octroi de l'emprunt. Et ça rend l'emprunt compliqué pour beaucoup. Et donc, beaucoup d'acquéreurs ne peuvent malheureusement pas se loger.
Je pense solvables.
Notamment à des... Alors voilà, plus solvables, alors qui, dans les faits, ils le sont. Le restant à charge est tout à fait considérable. Je pense notamment à un dentiste qui avait beaucoup emprunté à titre professionnel pour ses outils et la banque lui refusait l'emprunt parce qu'il y avait un endettement trop lourd au titre professionnel. Alors que le restant à vivre pour cette personne était largement suffisante pour obtenir un emprunt. Donc le viager libre va apporter des réponses tant au vendeur qu'à l'acquéreur. Côté vendeur, il va pouvoir vendre un logement, soit sa résidence principale, parce que le vendeur a besoin d'aller en maison de retraite ou veut se rapprocher de ses enfants et de ses petits-enfants. C'est ce qu'on rencontre souvent en agence. Donc, il va mettre en vente sa résidence principale. Soit il a une résidence secondaire et il se rend compte que finalement, il y va de moins en moins souvent. Le logement reste vacant et on sait que ça détériore le bien et les équipements d'avoir un logement trop longtemps fermé. Ou alors, on va avoir une résidence locative du bailleur et on sait dernièrement que l'État fait la chasse aux passoires énergivores. Ça
Bien
veut
sûr.
Dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus le droit de louer des logements qui sont étiquetés G pour 2025, F progressivement et puis bientôt D, enfin, en 2034. Et donc, ces vendeurs qui ont passé un certain âge, 70, 75 ans, on leur dit, vous n'avez plus le droit de louer votre logement, vous devez entreprendre des travaux. Mais ses grands-parents n'ont souvent ni l'argent ni l'énergie à
Ouais, c'est
consacrer pour
ça.
la rénovation de ce logement-là, ce qui fait que le logement devient vacant. Alors que ben, le loyer qui était tiré de cette résidence locative ben, était un revenu substantiel qui venait s'adosser à leur pension de retraite. Donc là, on se retrouve vraiment dans un vide où, au contraire, on veut libérer les logements parce qu'on souffre
Ouais.
de pénurie de logements en France.
Et le
Et
viager, dans ces
avec
cas-là, le
cette.
viager libre est une solution pour ces vendeurs potentiels.
Alors, non seulement ça va apporter une réponse apaisée à ces vendeurs où on va lui dire, vous pouvez vendre en viager libre votre bien, ça veut dire que vous allez avoir une rente viagère qui sera supérieure à votre loyer. Cette rente viagère sera défiscalisée à hauteur de 70% quand le vendeur a plus de 70 ans. Ça veut dire que s'il perçoit 1 000 euros de rente, il n'aura que 300 euros à déclarer dans sa base imposable, à la différence des revenus fonciers qui sont lourdement taxés en France. Et le vendeur va avoir des garanties notariées très importantes, beaucoup plus importantes, on le sait, que quand il y a des impayés de loyer avec un locataire. Et on a beaucoup de propriétaires bailleurs qui ne veulent plus gérer, qui ne veulent plus assumer les
Oui.
tracas locatifs avec les vacances locatives, les dégradations éventuelles, les impayés de loyer ou des rénovations ou des charges de copropriété qui sont de plus en plus importantes. Donc on va apporter une solution à ces propriétaires bailleurs en leur disant, vous devez faire des travaux pour améliorer votre logement, sinon ben, vous ne pouvez plus louer. On a la solution, on peut vendre en viager libre. Et beaucoup de propriétaires bailleurs, quand on apporte cette information, et notamment les enfants de ces propriétaires bailleurs qui déclarent très souvent ou qui gèrent pour le compte de leurs parents ce bien-là, leur dit, mais si on avait su plus tôt, ben,
Ouais,
on
on
aurait
l'aurait fait
vraiment
plus
mis
tôt.
en vente en viager libre, tout à fait.
Du coup, enfin, juste pour terminer, Sophie, vous nous avez donné quelques chiffres, mais est-ce que vous auriez un ou deux petits exemples? On va pas rentrer dans l'archi-détail de ces patrimoines, bien sûr, mais quelques exemples chiffrés qui illustrent un petit peu le propos, justement, pour un acheteur, pour un vendeur. Enfin voilà, illustrons un petit
Bien
peu
sûr, alors.
notre viager libre.
Donc là, on a vu les intérêts du viager libre côté vendeur, mais forcément un marché composé d'une offre et d'une demande. Donc la plus grande satisfaction pour un acquéreur, c'est de pouvoir devenir enfin propriétaire de son bien sans recours à l'emprunt. Et j'ai fait une simulation pour un bien d'une valeur libre de 500 000 euros. Si mon acquéreur achète à une femme de 68 ans avec un bouquet de 80 000 euros, la rente viagère sera de 1918 euros par mois. Et s'il devait acheter ce même bien, toujours avec un bouquet qui est une somme versée comptant la signature chez le notaire, comme un apport, on pourrait avoir un emprunt, à un couple de 68 ans, la rente viagère serait de 1739 euros par mois. À la différence d'un emprunt, si je devais emprunter pour ce même bien de 500 000 euros auprès de ma banque, j'ai un apport de 80 000 euros. J'ai fait une simulation avec les mêmes chiffres. Ça veut dire que j'emprunte 420 000 euros sur 22 ans. 22 ans, c'est l'espérance de vie statistique d'une femme de 68 ans. Il m'en coûtera une mensualité de 2582 euros
Ouf.
par mois, à la différence de 1918 euros par mois pour une femme seule. Ça veut dire moins de 600 euros par mois. C'est pas neutre. Et surtout, j'évite le coût de financement qui est porté à 262 000 euros. Et ça, très souvent, les acquéreurs n'ont pas conscience.
Eh oui.
Et je suis partie sur les taux actuels de moins de 4% sur 22 ans avec une assurance décès invalidité sur deux têtes. Donc, non seulement grâce au viager libre, je deviens enfin propriétaire de mon logement, j'évite les 262 000 euros de coûts de financement, ma rente viagère est inférieure à une mensualité, et c'est aujourd'hui
Oui,
qu'on a
bien sûr.
besoin d'avoir une rente moins élevée et pas dans 20 ans où nos revenus d'activité sont censés évoluer dans
Auront
le temps.
éventuellement progressé, oui.
Donc là, pour un acquéreur, il se dit, non, mais c'est merveilleux. Je peux enfin devenir propriétaire de mon logement. On satisfait le vendeur qui se retrouvait avec un logement vacant parce que sa résidence locative, il ne voulait pas ou ne pouvait pas faire les travaux. Et mon acquéreur peut devenir enfin propriétaire de ce bien. Et j'ajouterais même que le viager libre peut apporter des intérêts aux étudiants. On n'y pense pas, mais parents, on a nos enfants qui partent en études supérieures, c'est toujours un peu la galère de trouver le logement étudiant tous les mois, tous les ans, au mois d'août.
Ouais.
Et surtout, c'est un loyer à perte. Ça veut dire que si on a un enfant qui va partir pour 4, 5, 7 années d'études, vous pouvez très bien, vous parents, accompagner vos enfants pour qu'il achète son premier viager libre. Il peut acheter son studio, son T1, son T2 dans sa ville étudiante. Vous pouvez lui donner, vous savez, jusqu'à 100 000 euros par enfant, par parent, de quoi financer le bouquet, les premières rentes viagères. Et ainsi, je pense que c'est une solution assez salvatrice pour tout acquéreur,
C'est vrai
voire un
que
étudiant, quand
étudiant
à
et
20
viager, on n'y
ans.
avait pas pensé.
Exactement. Et j'ai commencé en fait cette pédagogie avec des amis qui galéraient à trouver des logements locatifs. Je dis, mais t'as pas regardé s'il n'y avait pas des viagers libres sur c'était Nantes en l'occurrence. Ils disent, mais pourquoi? C'est quoi le viager libre? Il ne va
Et
pas
ben
occuper avec
voilà.
la personne âgée. Je dis, mais c'est pas ça le viager libre. Tu peux trouver un logement vide de tout occupant. Donc vous voyez, il y a plein de solutions qui vont mutualiser les intérêts et du vendeur et de l'acquéreur. Faut-il simplement prendre le temps de s'y intéresser? C'est ce que vous faites dans le cadre de cette émission et je vous en remercie.
Eh ben, vous l'avez défendu avec conviction. Merci beaucoup Sophie d'avoir pris ces quelques minutes. Sophie Richard, donc Viagimo en duplex avec nous depuis la Vendée. À très bientôt sur Radio Patrimoine. Merci beaucoup Sophie.
Au revoir, merci.
Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur.